Bonjour, bienvenue au Studio 105, la radio du lycée Condorcet. Nous accueillons aujourd'hui dans notre studio le sénateur représentant des Français à l'étranger, Monsieur Olivier Cadic.
Bonjour.
Nos élèves de sciences sociales et politiques qui travaillent actuellement sur les institutions des régimes démocratiques souhaitent vous poser quelques questions sur votre mission ici en Australie, qui fait partie de votre fonction de sénateur, votre regard sur une ou deux questions de l'actualité française et internationale, votre parcours et éventuellement vos projets. Nous vous remercions tout d'abord de nous accorder cet entretien.
Bonjour, donc quelle est votre mission exactement en Australie et combien de temps restez-vous? Et est-ce la première fois ici que vous venez ici en Australie?
Alors, en tant que sénateur représentant les Français à l'étranger, ma circonscription, c'est le monde. Il n'y a pas, comme les députés, un monde qui est découpé. Donc, mon rôle, c'est de représenter les 2,5 millions de Français qui sont installés à l'étranger. Dans ce cadre, je suis amené à parcourir le monde et aller à leur rencontre. Je suis élu depuis 3 ans. C'est mon 209e déplacement et c'est le 61e pays traversé. Donc c'est la première fois que je viens en Australie.
Donc comment fait-on pour renforcer des liens de coopération entre deux pays, par exemple?
Alors il y a plusieurs manières. Il y a par exemple une manière éducative, et c'est ici le lycée Condorcet le montre. Un lycée français à l'étranger, c'est un lien direct entre notre pays et le pays hôte. Ça, c'est un point. Il y a un autre point, c'est tout ce qui est économique. Ce sont les entreprises, les échanges commerciaux. Je suis un entrepreneur et donc quand je passe dans un pays, j'ai ce double regard, le regard éducatif qui est le lien direct et ensuite le côté économique, l'entreprise. Mais évidemment, vous avez aussi d'autres vecteurs comme par exemple la culture. Vous avez ici une alliance française qui promeut non seulement l'enseignement de notre langue, mais aussi de notre culture, qui va faire passer la musique, le cinéma avec le French Film Festival. Donc ce sont tous ces vecteurs qui permettent de renforcer. Évidemment aussi, il y a le côté diplomatique, le partage d'intérêts, donc le côté géopolitique, donc le fait qu'on va s'allier pour faire évoluer le monde dans la bonne direction, enfin celle que nous pensons être la bonne direction.
D'accord. Donc vous avez parlé du fait que vous êtes un entrepreneur, et donc vous avez créé aussi une association, la France libre d'entreprendre, il y a environ 20 ans. Et donc, avez-vous sentiment que les choses ont évolué depuis que vous avez créé cette entreprise, et est-ce que c'est aujourd'hui plus facile d'être un entrepreneur en France?
J'ai créé mon entreprise à l'âge de 20 ans à Paris. Donc c'était déjà facile puisque j'avais réussi à le faire. Donc c'était possible. C'est en France, on a un certain nombre de contraintes qui sont liées à une administration qui est quand même assez puissante, assez efficace d'ailleurs, mais assez puissante et qui impose des règles quand même toujours un peu strictes. Au Royaume-Uni, j'avais l'impression de pouvoir plus facilement développer mon entreprise que ce que j'avais comme possibilité en France. Même en France, je la considérais comme menacée si elle restait. Donc j'étais parti en Angleterre, c'était il y a un peu plus de 20 ans, et j'avais donc déplacé le siège de mon entreprise. Et comme j'avais fait une conférence de presse pour expliquer, en mettant sur une feuille de papier la colonne « si je reste en France et si je suis en Angleterre », ça a donné envie à d'autres entrepreneurs de faire comme moi et de me rejoindre en Angleterre. Donc c'est pour ça que j'avais créé cette association, la France libre d'entreprendre, pour aider les entrepreneurs qui voulaient se développer depuis l'Angleterre. Ça a très bien marché pour moi puisque je me suis développé en même temps dans l'Internet, j'ai levé 10 millions d'euros, j'ai revendu mon entreprise, toutes mes activités plutôt lorsque j'avais 43 ans, j'ai pris une forme de retraite et puis j'ai décidé de tout réinvestir, enfin de réinvestir une partie plutôt quand même, dans la bande dessinée, donc dans une autre activité qui me donne beaucoup plus de temps libre. Et donc le fait est qu'aujourd'hui quand je compare par rapport à quand j'ai démarré, c'est-à-dire il y a 35 ans, le 2 octobre prochain, c'est qu'en France, il y a une prise de conscience qu'on avait un certain nombre de freins. Donc on a essayé de faciliter, on fait tout ce qu'on peut pour faciliter la création d'entreprises. Et aujourd'hui, c'est plutôt dynamique. La vision de la France, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de start-up qui peuvent se créer et qu'on rend les choses le plus facile possible. Est-ce qu'on a encore à progresser dans ce domaine? Oui, certainement, parce que d'autres pays aussi font des progrès. Il y a une vraie bataille pour attirer les entrepreneurs qui ont envie de créer leur entreprise dans tous les pays.
Donc vous vivez en Angleterre. Est-ce difficile de partager votre temps entre les deux pays et de siéger au Sénat et d'avoir une vie de famille à côté?
Alors, effectivement, il y a plusieurs questions. Donc, moi, je suis organisé en termes de partage de temps. Donc, je partage, j'ai un tiers de mon temps, vraiment un tiers, qui est à Paris, au Sénat, où je siège. Ensuite, un tiers de mon temps qui est en Angleterre, où je vis, normalement. C'est mon camp de base, donc avec ma maison. Et je me consacre pour le tiers de mon temps, donc, aux Français du Royaume-Uni, puisqu'à l'origine, j'avais été élu pour représenter les Français du Royaume-Uni. Et ensuite, comme je suis devenu sénateur pour tous les Français d'étranger, j'ai un tiers de mon temps qui est pour tous les autres, donc c'est-à-dire que pour le monde entier. Donc c'est ce qui fait que je suis amené à beaucoup voyager. Donc ensuite, effectivement, d'un point de vue vie privée, c'est beaucoup plus compliqué, vous l'imaginez très bien, puisque ça fait qu'on n'est pas souvent à la maison. Et ma compagne est avec moi et m'accompagne souvent. L'avantage, c'est que comme elle travaille avec moi dans la bande dessinée, on a une société No Paper, No People. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent pour notre société, ils sont dans le monde entier, mais ils travaillent depuis chez eux. Donc, ils ne sont pas connectés à un lieu. Donc, nous-mêmes, notre société se déplace avec nous, avec notre ordinateur portable. Donc, ça, c'est pour ma compagne. On arrive quand même à se suivre. Et puis, de l'autre côté, ma fille, ça y est, elle a 23 ans. Elle a fini son diplôme à LSI. Et donc, maintenant, elle travaille de son côté, donc je n'ai plus ce côté où il est nécessaire de rester attaché à un point. Mais vous l'avez compris, c'est un travail, sénateur des Français à l'étranger, c'est un mandat qui impose de se déplacer beaucoup, d'aller beaucoup au contact des autres, et c'est le problème de l'homme public, c'est qu'effectivement, sa vie privée passe souvent derrière. C'est ce qui rend la chose parfois pas facile, mais j'ai la chance d'avoir une compagne formidable.
Donc, vous vivez en Angleterre, vous vous déplacez dans le monde entier. Et donc, il y a forcément le Brexit qui vient sur la table. Et d'après vous, qu'est-ce que ça a changé pour les Français d'Angleterre que vous représentez ?
Le Brexit, c'est un vrai traumatisme pour moi, pour tous les Français qui vivent au Royaume-Uni. En l'occurrence, pour moi qui suis depuis 20 ans, plus de 20 ans. Mais ça ne touche pas que les Français, ça touche tous les Européens qui vivent au Royaume-Uni, et nous sommes 3 millions dans ce cas-là. C'est terrible parce qu'on s'est tous installés au Royaume-Uni dans l'idée que c'était l'Union Européenne et qu'on y aurait les mêmes droits que si nous étions dans notre pays, en France, et tout le monde est dans cet état d'esprit. Et là, tout d'un coup, alors que vous avez beaucoup apporté à un pays, on vous explique que non, finalement, vous êtes un étranger, qu'il va falloir remplir des tas de papiers si vous voulez rester. Et on rend votre situation très inconfortable parce que les raisons qui peuvent justifier que vous allez rester peuvent évoluer selon les jours, selon l'actualité de politique. Donc ça met tout le monde dans une position très inconfortable. C'est pas uniquement le fait de dire si on est obligé de partir, je m'en vais. Parce que quand vous êtes un couple binational, il y en a un qui est anglais, il y a l'autre qui n'est pas anglais, qu'il y a des enfants. Et bien pour un des, par exemple la maman ou le papa, on lui explique que peut-être il va devoir quitter le pays. Donc vous imaginez les problèmes familiaux que ça peut poser. Je vais faire vite parce que c'est aussi, parfois vous avez une dame retraitée, plutôt âgée, elle était mariée avec un mari britannique qui est décédé, et elle pense vivre et même être enterrée près de son mari. Et elles sont dans l'incertitude de savoir si elles pourront rester. Ce sont de véritables drames humains qui se posent aujourd'hui avec cette histoire. Et on est tous dans une position où on ne sait pas ce qui va devenir demain pour toutes ces personnes-là. C'est un vrai enjeu. Pour l'Europe, on a pensé que le Brexit allait créer l'implosion de l'Europe, que l'Europe se désintégrerait. Et en fait, il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire que les Européens se sont rapprochés de ce fait-là. Et je n'aurais jamais imaginé chanter l'hymne européen devant Westminster, entouré de drapeaux bleus étoilés, comme ça s'est passé, et ça s'est passé encore samedi dernier. Il y a un véritable phénomène qui se passe. Donc c'est très dur à vivre pour les Européens. C'est très dur à vivre pour les Britanniques qui vivent sur le sol européen, parce que tout le monde est dans l'incertitude. Mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose de fort qui est en train de se construire. Donc regardons le positif et regardons à plus loin. On va passer tous ensemble, je pense, cette étape.
Nous allons savoir maintenant qu'est-ce qui vous a amené en fait à être sénateur ? Parce que vous êtes passé donc du monde de l'entreprise informatique au monde politique. Comment fait-on pour changer complètement de direction ?
C'est passé un moment un peu particulier de ma vie où j'avais donc vendu toutes mes activités, et dans mon esprit j'étais déterminé à passer ma vie à écrire. C'était ma volonté un petit peu de me retirer pour écrire un certain nombre de choses que j'avais en tête. Et donc, à la fois d'un côté, on a démarré l'activité dans la BD avec ma compagne qui, elle, voulait avoir une activité, qui ne voulait pas passer son temps à me lire, c'est ce qu'elle m'avait dit, donc c'est pour ça qu'on a démarré cette nouvelle activité. Et de l'autre côté, il y a une sénatrice qui m'avait connue du fait de la France Libre d'entreprendre et qui m'avait dit « Écoute, moi je suis convaincu, Olivier, que tu es fait pour faire de la politique ». Et à l'époque, on était en 2005, et on m'avait dit, il y a un certain Nicolas Sarkozy qui vient de prendre la tête de l'UMP, il veut changer les choses, il veut des gens différents, ça ne doit pas vous rappeler une musique là, hein. Il veut des gens différents en politique, et donc tu as tout à fait le profil entrepreneur, on cherche vraiment des gens comme toi. Et donc voilà, je me suis présenté pour représenter les Français du Royaume-Uni, j'ai été élu en 2006, j'ai fait un mandat de 8 ans à l'Assemblée des Français de l'étranger, donc pour représenter les Français de l'étranger dans cette enceinte. Et 8 ans plus tard, quand j'ai été réélu, on m'a tout de suite proposé de me joindre à une liste sénatoriale parce que j'étais à l'UDI, qui est le parti centriste. J'avais participé à la création avec Jean-Louis Borloo. Et donc, j'étais identifié comme centriste. Il n'y avait jamais eu de sénateur centriste des Français de l'étranger. Et à l'époque, l'UMP avait besoin de faire des listes d'union, d'aller trouver des gens qui pensaient un petit peu différemment pour rassembler un peu au-delà de leur famille de pensée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu par hasard candidat pour la sénatoriale. Ce que je veux simplement dire à ceux qui sont intéressés à la politique et qui ont envie de faire de la politique, ne faites pas trop de plans. Parce que si vous faites un plan de carrière, vous risquez fortement la déception. Ce qu'il faut, c'est une décision de vivre un peu pour les autres. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'avais toujours vécu pour moi, pour mon entreprise. La politique, c'est quelque chose de merveilleux. Ça vous emmène à travailler pour les autres. Il faut accepter aussi de mettre sa vie personnelle un petit peu en arrière, en retrait. Certains ne le font pas, hein, je ne veux pas dire... Mais ça implique ça, mais ça vous donne, quand vous avez les gens en face de vous qui reconnaissent que vous avez participé à améliorer leur vie, qui vous manifestent de la reconnaissance, ce sont les plus beaux cadeaux que vous puissiez avoir dans la vie. Donc moi, beaucoup critiquent la politique, j'ai envie de dire, ayez une vie personnelle d'abord, et une fois que vous avez atteint certains objectifs, alors... engagez-vous, c'est le conseil que je peux vous donner pour travailler pour l'intérêt général.
Bien, écoutez, sur cet excellent conseil qui ne manquera pas donc d'intéresser nos élèves Léa, Clémentine et David, je vous remercie, monsieur le sénateur.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.